Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Finalement, on aura moins besoin de pelleter ce matin que prévu, mais ça va quand même continuer cette petite neige toute la journée. Alors, il faudra se préparer tout au cours de cette journée et la nuit prochaine également. Mais je veux pas vous parler de météo plus qu'il faut. Je veux juste vous dire qu'il faut quand même se préparer pour l'hiver. Parce que si vous le faites pas, vous risquez peut-être d'héberger des populations de petites bibittes d'animaux qui se cherchent, eux, une cachette aussi pour l'hiver. Alors, on va tout à l'heure, avec un spécialiste de la question, vous dire un peu comment éviter que des petits animaux s'installent chez vous. Il y en a. Des ratons laveurs, des écureuils, des moufettes, toutes sortes d'affaires. On va regarder également ce que Laurent Paquin aura à nous dire, parce que vous savez que Laurent casse la baraque avec son dernier spectacle. Il est en nomination d'ailleurs pour plusieurs prix, plusieurs Olivier. On va lui demander d'ailleurs, puisque son show s'appelle Déplaire, je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de le voir, on va lui demander quels sont les sujets qui lui déplaisent le plus par les temps qui courent. Laurent Paquin sera avec nous et on sera en Facebook Live tout à l'heure vers 11h30 ensemble. Mais je veux en première heure d'émission qu'on parle un peu de sucre, parce que la semaine dernière, on a fait une heure sur l'obésité. Beaucoup de gens ont continué de m'écrire posant des questions de plus en plus sur la teneur en sucre des aliments. On avait un peu abordé cette question-là, puis je vous avais dit, on va y revenir de toute façon. Ben c'est ce matin. Puis ça tombe bien parce que ce matin, un de nos invités, justement, Mathieu Bédard, économiste à l'Institut économique de Montréal. Merci, Mathieu, d'être là.
Bonjour.
Mathieu, ce matin, sort un document qu'on a reçu hier et qui, moi, m'a fait beaucoup, beaucoup, beaucoup réagir, Mathieu. Parce que là-dedans, ce que vous prétendez à l'Institut économique de Montréal, c'est qu'on mangerait moins de sucre et puis que le sucre aurait finalement pas vraiment rapport avec la cause de l'épidémie d'obésité au Québec ou ailleurs. Et là, en lisant ça, je t'avoue, je me suis dit, ben voyons donc, ça se peut juste pas. On en a parlé avec mes recherchistes, parce que c'est tellement documenté, il me semble, que le sucre est une grosse part de ce problème d'obésité qu'on a. Après, tu vas me dire, bon, ça dépend de ce que tu manges.
Ensuite, il y a une réalité, c'est qu'on en consomme de moins en moins au Canada. Et pas seulement au Canada, hein, dans plein d'autres pays d'Occident, aux États-Unis, en Australie, en Angleterre.
Ouais.
Il y a de moins en moins de sucre qui se consomme, alors que l'obésité, elle, arrête pas d'augmenter. Puis c'est pas moi qui le dis, hein, c'est des statistiques de Statistique Canada, de l'Organisation mondiale de la santé, de l'Organisation mondiale pour les Nations unies pour l'agriculture et l'alimentation. Je veux dire, pas mal, n'importe quelle source qu'on va chercher dit la même chose. On consomme de moins en moins de sucre et l'obésité arrête pas d'augmenter. Au Canada, on est à près de 30% du monde qui est obèse. Donc, c'est vraiment inquiétant et je pense...
Fait que c'est pas parce qu'ils boivent de l'eau, là.
Ils doivent bien manger
du sucre à un moment donné. Mais justement, comme tu es économiste, je me suis dit qu'il faudrait quand même qu'on aille voir les nutritionnistes et les spécialistes d'obésité.
Absolument.
Alors, Catherine Lefebvre est avec nous. Elle est nutritionniste. Elle a écrit, entre autres, un livre qui s'intitule « Sucre, vérités et conséquences ». Merci, Catherine, d'être là.
Bonjour, Isabelle.
Avec nous également, Paul Boisvert, qui est un spécialiste sur l'obésité, l'alimentation santé, le contrôle du poids. Il est docteur en kinésiologie. Bonjour, Paul.
Bonjour Isabelle.
Alors, votre action à tous les deux, Paul d'abord et Catherine par la suite. Paul, quand on dit, semble-t-il que les Québécois mangent moins de sucre, qu'est-ce que vous répondez à ça? Est-ce que c'est vrai? Est-ce qu'on peut se fier à ce que Mathieu nous dit?
Ben, tout d'abord, Statistique Canada a évalué en 2015 l'évaluation des consommations des Canadiens, et ce qu'ils ont trouvé, c'est la diminution des glucides en général, mais l'analyse sur les sucres n'est pas sortie. Donc, officiellement, on peut pas dire qu'au Canada, on a diminué notre consommation de sucre par rapport à l'étude précédente de 2004. Donc, de se baser sur les études australiennes ne peut pas s'appliquer en ce
moment.
Mais
il y a d'autres sources, Paul. Attends,
Mathieu, attends. On va juste laisser finir Paul. Vas-y, Paul.
Ouais, donc Statistique Canada, c'est vraiment le pendant canadien sérieux de la diminution de la consommation de sucre, et c'est pas encore sorti officiellement. Donc j'ai peut-être un petit bémol là-dessus. Si la consommation de sucre aurait diminué, là, c'est ce qu'on pourrait peut-être prétendre, c'est quand même assez léger. Et par contre, la consommation de protéines et de lipides, de gras, a augmenté légèrement. Toutefois, ce que Statistique Canada a ressorti, c'est que la consommation totale de calories n'aurait sensiblement pas changé depuis 2004. Donc, on a de la difficulté un peu à comprendre pourquoi l'augmentation de l'obésité continue de sévir, là, est rendue à 23%, et on pourrait même se rendre jusqu'à 26 % en 2030 selon les projections actuelles.
Mm-hmm. Mathieu, en fait, ce que tu dis aujourd'hui, c'est que le sucre n'est pas la cause de l'épidémie d'obésité au Québec et ailleurs, et taxer davantage les boissons sucrées, comme le réclament régulièrement certains groupes, est voué à l'échec. Ça, c'est ce que tu lances aujourd'hui.
C'est ce que je lance. Et j'ai l'impression que Paul confirme quand même que les gens consomment de plus en plus d'autres nutriments, mais qui consomment moins de sucre. Je veux dire, peu importe la source qu'on regarde, ça dit pas mal la même chose.
Mais ça, l'idée, c'était pour éviter que... C'est sur les taxes sur les boissons sucrées.
Même l'Organisation mondiale de la santé a récemment dit que ce n'était pas parmi les solutions qu'elle recommandait de taxer les boissons sucrées.
Catherine?
Par rapport à ça, en fait, par rapport aux données du tableau du feuillet là, de M. Bédard, en fait, c'est des statistiques de disponibilité.
Ouais.
Et non de consommation. Donc, il faut vraiment faire la différence entre les deux.
OK. Ça veut dire quoi, ça?
Bien, en fait, c'est la disponibilité du sucre sur le marché. On ne tient pas compte.
C'est l'offre.
Exactement. Donc, ce n'est pas nécessairement le sucre qui est
consommé.
Ce n'est
pas la consommation. C'est
la même chose quand on regarde les références du document par rapport aux consommations australiennes et américaines. C'est des données de disponibilité. Puis moi, quand j'ai écrit mon livre, j'ai même fait une entrevue avec quelqu'un chez Statistique Canada pour m'assurer que cette statistique-là n'était pas une statistique de consommation qu'on m'a confirmée. On ne peut absolument pas utiliser des données de disponibilité pour évaluer la consommation d'un ingrédient X, Y ou Z.
Donc, toi, Catherine, si je te dis... les Québécois mangent moins de sucre. Toi, ta réponse, c'est non, c'est pas documenté?
Bien, même chose que Paul dit. En ce moment, on ne les a pas les données les plus récentes. Ce qu'on savait en 2004, par contre, c'est que les jeunes au Canada, les 14 à 18 ans, les garçons consomment une moyenne de 500 millilitres, un demi-litre de boisson sucrée par jour. Les jeunes filles, l'équivalent d'une canette par jour. Donc ça, c'est des quantités... astronomique de sucre. Donc, même si on en consommait moins, on en consomme évidemment trop. Puis, en santé publique, on n'a jamais dit que le sucre était le seul et unique facteur de risque d'obésité. Évidemment, l'obésité, c'est une maladie qui est complexe, mais c'est un facteur de risque qui est documenté scientifiquement quand on s'intéresse aux études indépendantes et non financées par l'industrie. Et c'est un facteur de risque sur lequel on peut agir comme consommateur.
Donc, écoutez, j'en ai
Mathieu, vas-y, Mathieu Bédard, tu parles.
L'Université de Toronto, non financée par je sais pas quoi, qui a une statistique de la consommation. Elle va encore plus loin que moi parce que selon eux, ça ne baisse pas la consommation de sucre depuis une quinzaine d'années. Ça baisse depuis 1966. Donc je veux dire...
Écoute, j'ai de la misère à croire ça, sérieux. Ben,
j'aimerais avoir votre référence parce que moi, quand je regarde les références qui sont citées dans le document, je trouve un rapport qui a été commandé par l'Association canadienne des boissons. Ça, c'est les représentants de PepsiCo, Coca-Cola et tout ça. Et quand on dit que, par exemple, on boit moins de boissons gazeuses au Canada, en effet, c'est vrai. Mais quand on regarde le marché... Il y a 10-15 ans, qu'est-ce qu'on a vu apparaître sur le marché? Les boissons énergisantes, les boissons pour sportifs, les eaux aromatisées.
Les smoothies.
Le café au gâteau carotte, au gâteau forêt noire. Donc ça, c'est une tranche du marché qui a explosé il y a 10-15 ans. On boit peut-être moins de boissons.
Les données Statistique Canada sur la consommation de ce genre de boissons-là sucrées sont sorties récemment, sont sorties l'an passé, vont jusqu'à 2015. Même lorsqu'on inclut ce genre de boissons-là, ça a diminué. On consomme de moins en moins de sucre. Les boissons qu'on consomme, à la fois, on en consomme moins, mais aussi celles qu'on consomme contiennent moins de sucre. La consommation de sucre, elle diminue. Si on veut chercher une solution à l'obésité, faut pas regarder avec des œillères le sucre, faut regarder l'alimentation tout entière. Et et vous êtes d'accord essentiellement avec ça, là, quand je prends les conclusions de votre livre, quand je prends ce que Paul vient de dire au téléphone, vous êtes d'accord avec ça? Il y a plein d'autres sources de calories
tu parles, Mathieu,
dans notre alimentation auxquelles faut faire attention.
Oui, et ça, c'est remarque, c'est sûr. Mathieu Bédard, tu écris « Le paradoxe du sucre. Le sucre n'est pas la cause de l'augmentation des taux d'obésité 2. En fait, un paradoxe du sucre peut être observé au Québec et dans le reste du Canada. » C'est quoi le paradoxe du sucre, Mathieu Bédard?
Le paradoxe du sucre, c'est cette consommation qui baisse tout le temps et pourtant, notre taux d'obésité augmente, lui. Alors, je veux dire, si on cherche à améliorer puis avoir un effet sur l'obésité, je pense déjà qu'il faut prendre un petit peu de recul. Faut pas chercher des solutions simples à un problème très, très, très complexe qui touche l'ensemble de notre alimentation. C'est pas seulement... L'histoire de l'obésité, c'est pas seulement la consommation de sucre.
Il n'y a pas personne en santé publique qui a dit ça, que le seul unique problème, c'est le sucre. On parle davantage d'environnement favorable pour mener à des habitudes de vie qui sont
absolument plus saines. Mais en ce moment, on parle énormément de taxes sur le sucre.
Or, on parle de taxes sur les boissons sucrées.
Sur les boissons sucrées, oui.
On ne parle pas de taxes sur le sucre.
Et sur certains aliments sucrés. C'est des choses qui reviennent régulièrement dans
parce que
dans,
les
dans
taxes qui ont été imposées au Mexique, en France, en Angleterre, dans 8 villes américaines, ce sont des taxes sur les boissons sucrées et non sur le sucre. Donc, il faut vraiment faire la distinction. Et c'est pas juste une taxe pour nuire aux contribuables, c'est une taxe qui est là aussi pour, oui, réduire la consommation, puis vous le dites que ça amène une diminution de la consommation. Et c'est aussi une taxe pour servir à investir en prévention. Et
c'est là que ça devient intéressant. Parce que là, c'est un débat qui est purement économique.
Oui, j'aimerais entendre Paul Boisvert là-dessus, peut-être, sur le paradoxe du sucre proposé par Mathieu Bédard. Paul?
Ben là, ce matin, on a une personne qui amène des nouvelles idées, alors que les consensus national, international, au niveau scientifique, au niveau de l'Organisation mondiale de la santé, au niveau de
l'Organisation mondiale de la santé est contre une taxe sur les boissons sucrées.
Excusez-moi, je voudrais finir, s'il te plaît, qui va dans le sens où est-ce qu'on a réfléchi longtemps avec des consensus nationaux, internationaux, scientifiques, qui a ciblé la consommation des boissons sucrées parce que c'est la moitié de la consommation de sucre à travers le monde, et plus particulièrement au niveau des jeunes pour lesquels l'obésité a augmenté davantage. Et les études de l'effet de la taxation sur les boissons sucrées que Catherine mentionnait ont eu un effet favorable sur la diminution de la consommation des boissons sucrées et a eu un effet à partir du moment où la taxation est suffisamment importante. Alors oui, c'est une cible et ça peut avoir des effets si on a un environnement favorable, on a une taxation ou une diminution de la disponibilité de ces aliments-là. Mais effectivement, les causes de l'obésité, c'est pas seulement c'est les boissons sucrées, c'est le sucre, mais c'est aussi l'ensemble des aliments transformés que l'on mange, et aussi le fait qu'on l'on cuisine moins et que la restauration rapide et sur lesquels on mise davantage sur l'heure du dîner et l'augmentation des restaurants rapides autour des écoles a continué d'augmenter. Alors c'est sûr que il y a d'autres causes. On parle aussi, on en a parlé la semaine dernière avec l'étalement urbain, le fait que de plus en plus de deux voitures par ménage. La sédentarité au travail, ça l'a diminué de moitié le travail qui demande un certain effort. On est de moins en moins actif aussi au niveau du loisir par l'Internet, Netflix, hein, n'est-ce pas, Isabelle?
Ouais.
On aime ça, Netflix, en rafale pendant des soirées complètes, assis dans notre fauteuil, puis à la publicité du
Moi, j'essaie d'encourager la télévision québécoise d'abord, mais bon. Mais c'est un fait, beaucoup de gens font du Netflix, c'est clair. On va aller à la pause là-dessus, mais avant de poursuivre, c'est une question qui me brûle les lèvres, Mathieu Bédard, puis j'ai comme pas le choix de vous la poser pour être éthique et qu'on sache bien de quoi on parle ici. Je sais, Mathieu, parce que tu es déjà venu à l'émission nous parler de ta perte de poids. Et c'est d'ailleurs, Absolument. Je pense, que ce qui t'a amené à t'intéresser à tout ça.
Absolument, c'est un sujet que je suis de près, oui.
Mais en même temps, l'Institut économique de Montréal, c'est-tu indépendant, ça?
C'est indépendant, c'est absolument indépendant.
Donc, vous n'avez pas fait cette étude-là pour l'Association des boissons gazeuses?
Alors, on l'a fait d'abord parce que c'est un paradoxe, c'est super intéressant. Les gens n'en parlent pas.
Mais ce qui
ce
finance
matin même,
cette étude-là?
Je veux dire, la coalition Poids Santé l'a avoué, oui, on consomme de moins en moins de sucre. Toutes les sources le disent. Et pourtant, on ne l'entend jamais dire.
Mais ma question, je ne veux pas repartir ça parce qu'on. Mais la question, c'est vraiment, est-ce que c'est financé, cette étude-là, qui sort ce matin
parmi
quelques
membres,
lobbies de
non,
boissons sucrées?
L'étude n'est pas
financée
par quelques lobbies. Parmi nos membres, on a des compagnies qui produisent des boissons sucrées, mais ça représente moins d'1% de notre financement global. C'est 0,5%. C'est des sommes extrêmement petites. Je ne suis pas là pour ça ce matin. Je suis là parce que c'est un sujet qui me passionne, parce que c'est un paradoxe qui me semble absolument surprenant. Je ne l'avais jamais entendu dire ailleurs et je crois que les gens méritent de le savoir.
Mais écoute, c'est tellement paradoxal que moi, j'ai de la misère à le croire, carrément, là. Tu sais, parce que c'est pas ce que je vois. Puis en plus, quand je vois des jeunes, tu sais, t'as juste à aller faire la file dans un magasin de café connu, là. Puis tu te dis, mon Dieu, mais ça se peut pas. Il y a des cafés à 400 calories, crème fouettée on top of that.
C'est souvent, Isabelle, c'est que quand on analyse les statistiques de consommation, on va s'intéresser aux ventes dans les supermarchés, mais on va pas nécessairement tenir compte justement de ces
de tout
cafés,
ce qui reste, voilà.
Les arénas, les machines distributrices, le dépanneur, tout ça, où on a toujours accès à des boissons sucrées.
Fait que nous, on va faire notre petit sondage aussi, tu me permettras, Mathieu, ce matin.
Bien sûr.
Toujours non scientifique, moi, je vous le dis, c'est des sondages non scientifiques qu'on fait ici, mais ça vaut ce que ça vaut, et ça vous donne l'occasion, surtout, chers amis, de donner votre opinion là-dessus. Moi, je voudrais savoir, qu'est-ce qui vous fait prendre du poids? Avez-vous baissé votre consommation de sucre? On semble nous dire qu'on en prend moins du sucre au Québec. Ou est-ce que vous consommez toujours puis de façon différente du sucre raffiné, du sucre industriel? Il y en a beaucoup, puis sans doute Catherine, comme nutritionniste, va nous le rappeler. Du sucre, c'est du sucre, même si vous prenez du sucre de coco. C'est intéressant parce qu'on a les nouveaux sucres tendance, on va en parler également. Bref, tout ça, dites-nous un peu qu'est-ce que le sucre a aussi comme impact sur votre vie. Il y a des gens qui m'écrivent qui sont diabétiques. Je pense que pour eux, c'est un véritable problème. 514-790-9850. Ça tombe bien, on est dans le mois du diabète d'ailleurs encore. 1-866-790-9850 pour nous joindre sans frais. À tout de suite tout le monde. On parle de sucre ce matin et surtout du fait que l'Institut économique de Montréal sort un document, une étude, en fait, un papier où on dit, entre autres, taxer le sucre, ça n'empêche pas la hausse de l'obésité. Et même ce qu'on prétend là-dedans, c'est que toute l'épidémie d'obésité n'est pas reliée au fait que les gens consomment du sucre. D'ailleurs, les gens en consomment moins. C'est ce que prétend Mathieu Bédard, économiste qui s'est penché là-dessus. Je vais aller voir du côté de nos auditeurs ce qu'ils en pensent. Bonjour, Étienne.
Oui, bonjour.
Je pense que vous avez maigri, vous, en coupant votre consommation de sucre.
Mais en fait, oui, mais c'est pas tellement le sucre en tant que tel, le sucre raffiné, parce que j'en prenais pas énormément non plus, mais c'est tous les sucres, donc les féculents et surtout le pain, parce que ce sont des sucres aussi, c'est ça, faut pas oublier que c'est pas juste le sucre des boissons gazeuses.
Ouais.
Et moi, je connais beaucoup de personnes, en fait, qui même avaient un diabète de type 2, puis qui ont éliminé énormément les féculents, qui ont coupé toutes les farines,
ouais.
Ils n'ont plus de diabète de type 2.
Mm-hmm. C'est sûr.
Donc, moi, j'ai gardé mon poids santé.
Ouais.
C'est ça, j'ai perdu 30 livres.
Ouais. Seulement en coupant...
En coupant toutes les farines, tout ce qui est...
Ouais.
En fait, tout ce qui est féculent, tout ce qui est farine. Donc, je mange beaucoup de légumes, évidemment des protéines et beaucoup de gras aussi.
Mm-hmm. Merci, Étienne. Merci beaucoup. Patrick, bonjour.
Oui, bonjour à tous. J'ai un petit peu de misère avec l'attitude de M. Bédard vis-à-vis du sucre. Il défend le sucre pareil comme une lionne défend ses lionceaux. Ceci étant dit... il y a de ça un an, jour pour jour, à peu près, j'ai été diagnostiqué diabète type 2. J'étais pas une dent sucrée à la base, quelqu'un de relativement assez actif, puis j'étais ce qu'on appelle le ventre tripotant un peu. Puis juste en faisant attention au sucre, dans les céréales, en espaçant les boissons gazeuses, que je buvais pas beaucoup, j'ai baissé mon poids d'à peu près 30 livres juste dans la dernière année. Donc, de pas faire de relation entre le sucre et l'obésité, le gain de poids, comme le prétend M. Bédard, j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup de misère avec ça.
Merci, Patrick, de votre opinion. Nicole, bonjour.
Oui, bonjour. Ben moi, j'abonde un peu dans le sens que le sucre n'est pas le seul vilain. Moi aussi, j'ai eu une perte de poids importante. Puis c'est beau que, oui, j'en consomme beaucoup moins de sucre. J'ai souvent le réflexe, puis mon époux aussi, de dire, oh mon Dieu, as-tu vu ça? Combien de sucre qu'il doit avoir dans ça? Mais l'obésité, c'est un facteur, c'est plusieurs facteurs. C'est le manque d'exercice. C'est le gras, c'est les protéines, c'est tout un ensemble. Il faut vraiment arriver avec un plan global pour perdre du poids.
Mm-hmm. Merci, merci Nicole. Sylvain, bonjour.
Oui, bonjour.
Est-ce que vous y croyez, vous, qu'on consomme moins de sucre et que le sucre n'est pas le seul responsable, effectivement, de cette épidémie d'obésité?
Moi, ce que je trouve, déjà, je vais parler du sucre. Enfin, au niveau des boissons sucrées, il est sûr que boire des calories, c'est la pire des choses parce que on va pas rentrer dans le système de digestion, mais il faut savoir que la salive aide à la digestion et que c'est une des premiers principes de digestion. Et après, donc, c'est sûr que quand on boit des calories, ça va directement et après, ça va se transformer en graisse. Ça, c'est scientifique. Maintenant, le problème que j'ai avec la statistique, c'est qu'on trompe les personnes parce que dire qu'il y a moins de sucre qui est vendu, donc c'est pas le sucre qui est un problème d'obésité. Il faut pas regarder l'intégralité de la population, mais regarder la partie de la population qui, elle, va prendre du sucre. Donc, si on a 50% de population qui en prend plus du tout, c'est sûr qu'ils font partie des 50% qui n'ont pas d'obésité. Mais si 50% en prend plus, on va augmenter le chiffre de l'obésité. Donc, c'est vraiment dévier complètement le système. Et ce n'est pas parce que le sucre n'est pas le seul facteur qu'il faut dire, il faut arrêter, qui c'est paradoxal, ce n'est pas paradoxal. C'est la même chose de dire, j'ai 25% de gens qui ont des accidents qui sont alcoolisés, qui ont bu de l'alcool, donc 75% n'ont pas bu d'alcool, donc c'est pas l'alcool qui crée les accidents. On déjoue beaucoup, beaucoup les statistiques. On peut jouer tout le temps avec les pourcentages. Ce qui est sûr, c'est que quand les gens consomment et boivent de l'énergie, c'est-à-dire des calories, ouais, c'est évident que ça crée des problèmes d'obésité. Moi-même, j'ai perdu 20 livres quand j'ai complètement arrêté les boissons sucrées. J'en prenais pas beaucoup, j'en prenais juste une canette par jour. J'en ai plus, j'ai rien fait d'autre, je suis sportif. Ça a diminué tout à fait mon poids. Donc, ouais, c'est sûr que il n'y a pas que ça, mais arrêtons de dire que le sucre n'est pas néfaste. C'est néfaste et c'est un lobby pur et dur. Il faut savoir que les jus d'orange ont été faits par la Floride à l'époque parce qu'ils avaient beaucoup d'oranges et il fallait dire que le jus d'orange était bon pour la santé. Or, c'est du sucre direct et on boit du sucre.
Effectivement. Ce n'est pas bon. Merci, merci Sylvain. Mathieu, je pense que Paul Boisvert voulait dire quelque chose. Paul?
Le plus grand régime qu'il y a à la mode ces temps-ci, c'est de couper à l'extrême le sucre et les glucides. Et c'est ce qui permet de perdre du poids et les auditeurs qui viennent d'en témoigner. Alors moi, j'aimerais ça savoir de quelle façon Mathieu a perdu du poids. Il devrait nous dire, s'il veut être cohérent, de nous dire qu'il n'a pas diminué sa consommation de sucre au-delà de celui du gras. Alors si la diminution de sucre est la première cible pour perdre du poids, alors, pour prévenir le gain de poids puis pour prévenir l'obésité, il faut évidemment diminuer la consommation de sucre et la consommation des boissons sucrées est le premier aliment de consommation de sucre dans notre société. Alors, il faut viser les bonnes cibles.
Ouais. Le régime dont tu parlais, c'est cétogène, Paul?
Oui, c'est ça, exactement. C'est ça, ouais.
On va aller à la pause. Après la pause, Mathieu Bédard va nous dire comment il a maigri. On veut tous le savoir. Alors, restez là. Et puis, bien sûr, on prend vos commentaires. Toutes nos lignes sont pleines. On vous donne la parole tout de suite après ceci. Dites-nous si vous avez réduit votre consommation de sucre et qu'est-ce qui vous fait encore grossir si vous prenez du poids, si vous luttez contre l'embonpoint, bien sûr, on veut vous parler ce matin. Vous pouvez nous joindre en faisant le 514-790-9850 et sans frais partout au Québec, 1-866-790-9850. On voulait savoir comment Mathieu Bédard, mon invité, avait réussi à perdre pas mal de poids, Mathieu.
Ben, écoutez, moi, ce qui a marché dans mon cas, c'est...
100 livres, on dit? 100 livres?
Même plus. Hein,
plus
110
que 100 livres.
110
livres,
ouais. Wow. Et moi, ce qui a marché dans mon cas, je dirais que c'est une forme d'éducation. Je mangeais trop puis je savais même pas. En réalité, je savais pas ce que c'était qu'une portion normale. Et donc, juste en limitant les portions, donc ce que j'ai fait, c'est pour être clair, là, c'est j'ai compté les calories, donc j'avais ma petite balance puis je pesais presque tout ce que je mangeais. Et grâce à ça, ça m'a permis d'arriver à perdre du poids, de limiter mes calories. Maintenant,
mais tu as dû réduire ta consommation de sucre.
J'ai réduit ma consommation d'à peu près tout. Mais j'ai quand même consommé beaucoup de sucre. Même, je sais pas si vous en souvenez, j'étais venu à votre émission puis je disais que même pendant que je perdais du poids, je continuais à manger un bol de Fruit Loops de temps en temps. Donc
de temps en temps, ça veut dire quoi, ça? Ouais.
Pour être bien honnête, plusieurs fois par semaine, 5 fois par semaine peut-être.
Mais okay. Voyons donc.
Ça, c'est pas de temps en temps, là. C'est régulièrement.
C'est pas mal régulièrement. Et je consommais énormément de sucre, énormément de glucides.
Je vais reposer ma question. T'as-tu Fruit Loops comme client?
Non, je pense pas. Je t'en sais rien.
Mais voyons donc.
C'est quoi l'idée, en fait,
manger des Fruit Loops, il y a tellement juste du sucre. Ouais.
C'est comme, dans un point de vue de santé globale, justement, quand on se dit, ah, je vais perdre du poids pour ma santé, pour...
Parce que je faisais un sport de force en même temps. Et puis pour régénérer ses réserves d'énergie,
dans la population en général.
Non, dans la population en général, compter ses calories, c'est pas quelque chose qui va marcher pour tout le monde. Hein. Il y a des gens pour qui tout simplement manger plus de légumes, ça va être suffisant et ça va faire qu'ils vont manger moins de calories. Et faire comme moi et tout peser, je sais très bien que c'est pas quelque chose qui est pour tout le monde. Pour d'autres gens, le régime cétogène, comme Paul mentionnait, c'est quelque chose qui peut fonctionner. Pour eux, ça peut apparaître plus simple. Et vous savez, l'important pour perdre du poids, c'est de manger moins de calories que ce qu'on dépense. Peu importe la façon dont on y arrive, faut quand même essayer de rester santé quand on fait ça, là, bien sûr.
Oui, parce qu'en même temps, tu sais, quelqu'un qui couperait ses portions, tu sais, j'essaie de suivre ta logique, là, de dire c'est pas le sucre le problème, puis dire ok, ben pour perdre du poids, si je suis ce que tu viens de dire, c'est-à-dire manger moins en général, même si tu mangeais que du sucre, Il y a quelque chose qui marche pas.
Non, il
ne
faut surtout pas faire ça.
C'est ça,
faut pas manger que du sucre parce que quand vous mangez du sucre, par exemple, vous n'avez pas de fibres, vous n'avez pas de protéines, vous n'avez pas des vitamines et plein de choses qui sont essentielles.
Et il y a des gens qui m'écrivent.
Ne mangez pas que du sucre.
Il y a des gens qui m'écrivent. Il y a Yves, entre autres, qui m'écrit. Il dit qu'il a arrêté il y a 4 ans de mettre une petite cuillère à thé de sucre dans son café. Résultat, j'ai perdu 13 livres en ne modifiant rien d'autre à mon alimentation. Sucre égale emmagasinage de calories égale obésité et diabète de type 2. On a assez de sucre dans les fruits pour en manger ailleurs. Puis il parle du piège du low fat aussi, c'est-à-dire tout ce qu'on dit, tous c'est aussi ces petits sachets de biscuits où c'est marqué 100 calories. Puis Catherine, tu t'es beaucoup penchée là-dessus, entre autres.
Oui, absolument. Puis je pense qu'il faut regarder, quand on regarde la composition des aliments ultra transformés qui occupent 48% du panier, tu sais, les calories du panier des Canadiens, là, près de la moitié du panier contiennent des aliments ultra transformés. C'est des aliments, évidemment, qui sont plus sucrés, mais qui sont aussi, évidemment, plus riches en gras, plus riches en sel et en toutes sortes d'autres additifs alimentaires qui ne sont pas nécessairement intéressants pour la santé globale. Puis quand on s'intéresse justement au contenu de ces aliments-là, oui, c'est facile de dire, puis on le voyait dans le rapport de M. Bédard, c'est des aliments, oui, il faut faire attention parce que là, on va manquer de nutriments parce que c'est des aliments qui contiennent des fibres, qui contiennent de la vitamine C, puis je ne sais pas quoi. Mais c'est des aliments qui sont très faciles à modifier par l'industrie. C'est facile d'ajouter de la vitamine D dans des Fruit Loops. C'est facile d'ajouter des fibres qui sont plus ou moins fonctionnelles dans des céréales très, très sucrées. C'est possible d'ajouter à peu près n'importe quel nutriment dans les aliments ultra transformés pour les faire paraître comme... pouvant faire partie d'une alimentation saine. Mais je pense que quand on regarde justement les études par rapport à la surconsommation d'aliments ultra transformés et de boissons sucrées, puis quand on s'intéresse à la qualité des aliments et le degré de transformation alimentaire, c'est là qu'on voit que finalement, ce qui contribue, oui, à la santé globale, mais à réduire notre apport notre apport en sucre, en gras, en sel, tout ça, qui vont nuire à notre santé, c'est vraiment de revenir à des aliments qui sont moins transformés. Puis on en discutait avant même d'entrer en studio que cuisiner, par exemple, c'est quelque chose qui aide énormément à améliorer la qualité de notre alimentation.
Parce qu'on voit ce qu'on met dedans ou ben, c'est pourquoi? Parce que c'est moins transformé de façon industrielle.
Ouais. Non seulement on sait ce qu'on met dedans, mais on peut décider nous-mêmes de réduire la quantité en sucre d'une recette, de mettre moins de sel, de ne pas mettre d'agents de conservation, de choisir des meilleurs gras. Donc évidemment, tu sais, je reprends, je pense que c'est Nicole qui appelait tout à l'heure. Ouais. Évidemment, la problématique d'obésité, c'est complexe. Évidemment, il y a plusieurs facteurs. Puis chaque personne est différent. Chaque personne a un mode de vie différent. Pour certaines personnes, ça peut être « Ah, j'ai fait plus d'activité physique, ça a fonctionné pour moi. Ah, j'ai réduit ma consommation de boissons sucrées. » Mais je pense que c'est important de regarder ça au niveau des facteurs de risque qu'on peut contrôler. Donc, qu'est-ce qu'on peut modifier dans notre alimentation? Si c'est le sucre dans votre cas, ben, tant mieux. Mais si c'est d'autres choses, ça peut être autre chose. Mais juste un petit point, la simplicité de dire « perdre du poids » dans le fond, c'est moins de calories que... Tu sais, le calories en étrant, extrant, là, ça, là, c'est comme
c'est trop simple?
Ben, non seulement c'est trop simple, mais c'est comme une recommandation des années 80. Tu sais, comme on parle plus de ça du tout. Là. On est vraiment... Parce que, justement, il faut aussi inclure tout l'aspect psychologique. Hein, ça va bien au-delà de juste qu'est-ce qu'il y a dans mon assiette? Est-ce que je la mange au complet?
Il y a aussi une question de métabolisme. Je ne sais pas si Paul Boisvert peut-être enchaîner là-dessus. Je me souviens, Martin Allard, ici, naturopathe, nous avait déjà parlé beaucoup du métabolisme et de l'effet du sucre sur...
Les sucres liquides, par
exemple. Oui, puis sur le... Chez certaines personnes, on a tous un métabolisme différent. Oui. C'est comme un ADN, on l'a tous unique. Donc, on a tous un métabolisme qui peut réagir différemment. Le mien est différent de celui de Catherine. Mathieu est différent de celui de Paul. Paul, là-dessus, comment ça peut jouer une surconsommation de sucre?
Ben, ça fonctionne sur l'insuline. Donc, quand on a une charge de sucre qui est trop importante, ça influence la sécrétion d'insuline parce qu'elle veut que le sucre dans le sang soit constant. Donc ça, c'est très important. Et dès que le sucre est trop élevé puis que l'insuline fait en sorte qu'elle veut se départir du surplus de sucre, elle l'envoie dans les tissus adipeux et le transforme en graisse. Donc, on essaie d'avoir une consommation la plus stable de sucre et de glucides durant la journée pour pas réveiller le monstre qui est celui de l'insuline.
C'est ça, parce alors, qu'en fait, pour qu'on comprenne...
Oui. Des gens qui prennent du poids à cause des médicaments qu'ils consomment et qui les amènent à surconsommer. Ce qui fait que, en fait, chaque personne, comme tu l'as mentionné, Isabelle, chaque personne a un métabolisme différent, une façon différente de prendre du poids et même d'en perdre. Moi, je suis coach en perte de poids et j'ai la moitié des personnes qui vont réussir à avoir, avec un très bon métabolisme, à perdre du poids en ayant, en diminuant tout simplement leur consommation totale de calories, de portions, puis pour d'autres pour lesquels ça ne fonctionne pas. Alors, mon premier questionnaire, c'est je demande aux gens individuellement pour quelles raisons vous grossissez et j'ai dans mon questionnaire une vingtaine d'éléments qui sont susceptibles de leur faire prendre du poids. Et donc, c'est des comportements alimentaires et émotionnels, génétiques, au niveau aussi de la cigarette, de la façon dont, à quelle heure ils mangent leur repas, est-ce qu'ils grignotent. Et ensuite, je cible pour chacune de ces personnes-là le comportement sur lequel on va travailler, que ce soit le sucre, les boissons sucrées, comme il y en a qui ont dit que seulement changer, consommer moins de boissons sucrées a fait en sorte qu'ils ont perdu du poids. D'autres, ça va être davantage de ne pas grignoter. D'autres, ça va être de gérer leur stress pour pas en faire en sorte qu'ils vont manger n'importe quoi entre les repas.
Mais dans les top 3 là, de tes 20 raisons, Paul, ça serait quoi? Les top 3 là, qui font grossir?
Ah, je dirais le stress qui les fait grignoter.
Oui.
Ensuite, je dirais que c'est les portions.
Ouais.
Les portions qu'ils ont par rapport à ce qu'ils mangent dans les restaurants, dans les buffets, dans les soupers, dans tout l'environnement défavorable qui fait en sorte qu'ils cuisinent moins. Puis l'autre élément, c'est que les gens ne mangent vraiment pas assez de légumes. Ouais. Et une façon de manger plus de légumes, c'est de cuisiner davantage.
Fait que là, Mathieu va dire, ben là, tu vois, il n'y a pas le sucre là-dedans.
Et surtout, il n'y a pas la taxation du sucre là-dedans.
C'est ça son point. C'est ça qu'il veut nous faire avaler aujourd'hui.
Absolument.
Taxez pas mes boissons sucrées. On va aller à la pause là-dessus. On revient avec vos commentaires et on conclut. À tout de suite. On a Frédéric avec nous. Bonjour.
Oui, bonjour. Félicitations pour votre émission.
Merci.
En fait, juste mettre dans le contexte, je suis pas un grand sportif, j'adore manger et j'ai une job assis. Donc, je suis un parfait candidat pour prendre du poids.
Uh-huh.
Cependant, vers la fin 2014, j'ai coupé boissons gazeuses, les boissons énergisantes, j'ai coupé les jus et également le lait.
Ouais.
Boire, tout remplacer ça que par de l'eau. D'ailleurs, le lait a été enlevé du guide alimentaire canadien, mais bon, je sais pas si c'est une des raisons à cause du sucre qui était dedans, mais bon. Tout ça pour dire que 2014, j'étais près du 210 livres et sans avoir changé aucune habitude alimentaire, avoir continué à manger comme j'adore manger des portions assez grandes quand même, je suis maintenant rendu à 160 et je n'ai absolument rien changé, seulement coupé tout et qu'est-ce qui était breuvage contenant du sucre et finalement prendre que de l'eau.
Bravo.
Wow. C'est quelque chose dont vous n'avez pas été du tout en privation alimentaire.
Ça a été difficile au niveau, en fait, au niveau, comme on ne voit pas, la boisson énergente ou la boisson sucrée, tu la vois, puis, mais bon, voilà. Ça a été comme quelqu'un qui essaie d'arrêter de fumer, mais
c'est
bon, j'ai réussi. Alors, quand on réussit à passer le premier mois, le deuxième mois est encore plus facile.
Voilà, bravo Frédéric, il y a eu un certain sevrage quand même, c'est pour vous dire à quel point le sucre peut être... on peut être dépendant au sucre. Au même titre, on parlait de la cigarette pendant la pause, on faisait l'analogie, là, c'est pas si loin que ça. On a avec nous Sophie. Bonjour Sophie.
Bonjour.
On vous écoute.
Moi, en fait, j'ai commencé une diète cétogène il y a 8 mois.
Oui.
En partie pour perdre du poids et aussi pour la valeur anti-inflammatoire de cette diète-là. Donc, j'ai coupé tous les sucres de mon alimentation au complet.
Résultat?
50 livres de perdu.
Wow! Hey, c'est quelque
en
chose.
En 8 mois, à mon âge, c'est quand même 54 ans, perdre 50 livres en 8 mois, c'est quand même assez impressionnant de grosses privations.
Aviez-vous du diabète de type 2, par hasard?
Non.
Non, vous n'aviez pas ce problème-là.
Pas de diabète, mais beaucoup de problèmes articulaires. Donc, pour moi, c'était d'abord et avant tout un problème un problème physique plus que de perte de poids. Là.
Et est-ce que vos problèmes de justement articulaires sont réglés?
Ben, ça peut pas être réglé. J'ai des bobos, mais je mise sur le fait que ça peut ralentir le développement de l'arthrose.
Oui, certainement, certainement. Quand on est moins lourd, c'est sûr que c'est nettement mieux. Merci et puis bravo. Maxime, bonjour.
Bonjour, vous allez bien?
Oui, on vous écoute, Maxime.
Oui, écoutez, moi, ce que je voulais ajouter, ça fait maintenant un an et demi que je suis vegan. Je mange le sucre que je veux, le pain, les pâtes que je veux, à temps plein, sans rien regarder. Je pèse 155 livres, 5 et 9. Poids santé, j'ai un travail assis. Je trouve qu'on vise souvent le sucre. C'est vrai que les sucres, c'est des calories vides. Par contre, si on fait attention à ce qu'on mange en général, donc manger plus de légumes, pas de produits laitiers ou moins, là, s'il y en a qui veulent continuer à manger, ou les gras dans la viande, peu importe, le poids santé se maintient tout seul. Mm-hmm. Je dirais que c'est plus au niveau des gras qu'on boit ou qu'on mange dans la vie de tous les jours qui est le problème, et non les sucres, parce que on dit toujours ne mangez pas de pommes avant de se coucher, c'est des calories qu'on ankylose. Et moi, ma fille, elle mange des collations, des oranges, des pommes à tous les soirs vers les 8 heures. Personne ne fait de surpoids à la maison, tout le monde est en parfaite santé.
Ouais, merci beaucoup. J'ai une question pour Catherine Lefebvre, notre nutritionniste. Daniel demande, est-ce qu'une calorie de sucre est égale à une calorie de légumes, par exemple? Elle dit, moi, si je mange 1200 calories par jour, je ferais un repas McDo de 800 calories ou n'importe quel hamburger industriel. Au lieu d'une salade de 800 calories, est-ce que je vais prendre du poids? Est-ce que 800 calories d'un hamburger, c'est le 800 calories qu'il y aurait dans une salade? 800 calories dans une salade, c'est parce que tu as mis beaucoup de vinaigrette.
Oui, c'est ça.
Très sucré du commerce.
Ben, en fait, merci de la question parce que ça m'amène justement à mon point de tout à l'heure de dire que une calorie qu'on mange, puis tu sais, il faut manger moins de calories que ce qu'on dépense.
Oui, exact.
C'est pour expliquer justement qu'une calorie, c'est pas une calorie, dans le sens que les calories qu'on retrouve dans une poignée de bonbons, puis ce qu'on retrouverait dans une poignée de noix, même si c'est à calories égales, on n'a pas du tout la même qualité d'aliments ou de produits dans le cas des bonbons. Et à ce moment-là, quand on. Bon, par exemple, on a des protéines dans les amandes qui vont calmer notre faim, qui vont nous soutenir plus longtemps que les bonbons qu'on va avaler d'un coup, qui ne vont pas nous associé du tout. Et donc, si on a faim, tout porte à croire qu'on va manger autre chose. Donc, c'est pour ça que, tu sais, de juste dire, j'ai coupé les calories, mais c'est pas grave, je mangeais n'importe quoi, même des Fruit Loops 5 fois par semaine.
Ouais.
Pour reprendre.
Mathieu, sens-toi pas visé du tout, là.
Mais c'est sûr que quand on
mais
fait
j'avais
notre
par ailleurs
possible,
une très bonne nutrition. Je mangeais tous mes légumes,
on espère parce que c'est
tes légumes
à chaque matin, c'est pas facile. Mais
est-ce que la bière contient du sucre, demande René.
Oui, il y a du sucre résiduel dans l'alcool.
Ouais.
Mais quand on regarde, par exemple, la bière, c'est quand même un petit peu plus élevé que le vin, par exemple. Mais dans un vin sec, dans une bouteille de vin. D'ailleurs, ça, c'est une question qui revient toujours dans mes conférences. Les gens sont très préoccupés par le sucre résiduel dans l'alcool. Dans une bouteille de vin, 750 millilitres, on va avoir à peu près l'équivalent d'une cuillère à thé. 750
ça se gère.
De boissons sucrées. Ouais. Je vous
bière,
dis même pas combien il y en a.
90 calories.
Ouais.
Une bière, c'est 150 calories en tout. Il y a 60 calories de l'alcool.
Oui.
Qui est transformé par le foie, donc qui prend plus de temps. Et le reste, c'est des glucides.
Ah,
c'est
90 calories
de glucides. Donc, les glucides vont être transformés en sucre. Donc, c'est pas nécessairement du sucre, mais c'est des glucides. Alors que le vin, une portion de 4 onces de vin, c'est 110 calories. Et donc, la quantité de sucre est beaucoup moindre.
Donc, pour répondre à la question de René, c'est quasiment les deux tiers d'une bière qui sont des glucides qui vont être transformés. Puis après ça, on pourrait parler largement, on n'a plus de temps, mais il faudra éventuellement qu'on revienne là-dessus, sur l'assimilation par nos organes principaux, le foie, le pancréas, le cerveau aussi qui fonctionne avec le sucre. Là, mais on parlait du métabolisme tout à l'heure, chacun en a un particulier. Mais c'est sûr qu'il y a des gens qui ont de la difficulté à assimiler le sucre. Ça se ramasse dans le foie, dans le pancréas. Le problème du diabète de type 2, c'est quand même beaucoup relié à ça aussi. Puis il faut rappeler le sucre. Lisez les étiquettes, les amis. On termine là-dessus. Lisez les étiquettes. Je pense que Catherine va être d'accord et Paul aussi. Et même Mathieu qui aussi. Doit le faire aussi, sans doute, parce que vous allez voir, il y en a partout du sucre. Partout, partout, partout. Renseignez-vous. Lisez les étiquettes. Tout ce qui finit en ose, là, posez-vous des questions. En avez-vous besoin dans votre alimentation?
Catherine, pour faire du pouce là-dessus, Isabelle, en fait, je rappellerai que justement, oui, il y a du sucre partout, particulièrement dans les aliments ultra transformés.
Ouais.
Quand on choisit des aliments qui sont peu transformés, des ingrédients avec lesquels on va cuisiner à la maison, à ce moment-là, on part déjà avec un ingrédient qui contient peu ou pas de sucre du tout. Et à ça, on peut choisir quelle quantité de sucre on va ajouter ou non.
Et tenez-vous loin des édulcorants parce qu'ils envoient des messages au cerveau comme quoi c'est sucré, donc on l'assimile comme du sucre. Merci.
Oui, Paul, deux secondes. Quand on est gourmand comme moi, on fait beaucoup d'activités physiques et ça nous permet de manger à peu près n'importe quoi.
C'est le mot de la fin. Merci.